Donc, heureux d'être parmi vous ce matin. Et je voudrais juste, avant de commencer, remercier encore toutes celles et ceux qui nous ont fait part de leur empathie à l'occasion de l'enterrement de notre fils Daniel. Merci beaucoup. Je n'ai pas pu répondre personnellement à chacun. Je l'ai fait pour beaucoup, mais c'était difficile de répondre à chacun personnellement. Mais je voudrais quand même vous dire que nous sommes reconnaissants d'avoir eu tant de frères et sœurs qui nous ont fait part de leur amitié. Ce matin, j'aimerais vous amener sur le chemin d'Emmaüs. J'ai appelé ça le récit d'une promenade extraordinaire. J'aurais parfois bien voulu qu'on puisse, en quelque sorte, visualiser cela, aller se promener en même temps pour raconter cette histoire, parce que tout se passait en fait en route entre Jérusalem et le village d'Emmaüs. Et l'autre phénomène, quand j'ai commencé mon ministère pastoral, vous allez dire que ça fait un moment, et vous avez raison, il avait l'habitude de venir avec sa Bible au culte, et je le regrette un peu de ce que la technique nous a enlevé ce moyen, parce que c'était bien de pouvoir suivre le texte dans sa propre Bible, comme c'était aussi pratique d'avoir son cantique entre les mains, mais on ne revient pas en arrière. Et la technique a donné des réponses quelquefois aussi quand même très pratiques pour ces moyens. Mais j'aimerais quand même, avec vous ce matin, parcourir en quelque sorte ce chemin d'Emmaüs dans l'Évangile de Luc au chapitre 24. C'est le verset 13 à 32. Et nous allons suivre le texte. Il y a d'abord une première étape, c'est en quelque sorte le décor. En bon chroniqueur, l'évangéliste Luc a dressé le contexte de son récit. Verset 13, « Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. » L'expression « stade » vient du grec « stadion », c'était en fait la distance de la longueur du stade de l'arène de l'Olympe, et qui mesurait 185 mètres. Donc, ça fait 60 stades, 11,1 kilomètres exactement. Et voici, Luc nous explique le contexte. Il y a deux hommes, disciples de Jésus, qui quittent Jérusalem pour rejoindre leur village d'Emmaüs. Qui sont ces disciples? Pourquoi quittent-ils Jérusalem? Ils ne faisaient probablement pas partie des 11 disciples, mais ils devaient être des disciples proches, puisqu'on apprend par la suite qu'ils étaient avec les 11 à l'annonce de la résurrection de Jésus. Ce n'est pas la peine de spéculer pour savoir qui c'était. L'un est nommé Cléopas et l'autre, on ne sait pas. Certains ont pensé que c'était Luc lui-même, d'autres ont même suggéré que c'était l'épouse de Cléopas. Oui. Mais leur problème, c'est que Jésus, le Messie en qui ils avaient mis tous leurs espoirs, a été crucifié 3 jours plus tôt. Leur espérance d'une délivrance prochaine de l'envahisseur romain s'était envolée. Amère désillusion, tristesse de s'être laissé en fait endoctriner par cet homme qui se disait être la lumière du monde ils n'avaient plus vraiment de raison pour rester à Jérusalem. Et pourtant, ils n'arrivaient pas à se résilier. Au verset 14, nous lisons, « Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. » Donc sur ce chemin, 11 kilomètres, ça fait comme deux bonnes heures de marche, ils se remémorent tout ce qui s'était passé ces derniers jours, tellement chargés d'émotions. Cherchons à comprendre les causes et les effets de ce qui s'était passé. Au verset 15, nous lisons « Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. » Voilà donc que, durant leur marche, un autre voyageur vient se joindre à eux. Quelle est leur réaction par rapport à ce nouveau venu? Je dirais dans un premier temps, aucune. Ils continuent leur discussion sans trop se soucier de lui. La seule indication que l'on a, c'est qu'ils ne l'ont pas reconnu, au verset 16. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. On peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas reconnu? Ils sont, pour eux, ils étaient en train de parler de quelqu'un qui était mort. Le texte ne nous dit pas par quoi ou pourquoi ils étaient aveuglés. Mais cela me fait quand même réfléchir pour me dire que l'aveuglement spirituel, ça existe. On peut parler de Jésus sans le reconnaître pour ce qui il est, c'est-à-dire le Christ ressuscité. Celui qui veut se manifester à chacun de nous ce matin même, parce qu'il est vivant. Faut-il encore que nous le reconnaissions? Il y a eu ensuite une deuxième étape dans les versets 17 à 24. Jésus leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tellement tristes ?» Maintenant, on peut se poser la question, mais pourquoi le Seigneur ne leur a pas tout de suite dit, « Ah ben, écoutez, c'est moi. » Mais non. Le but qu'ils recherchent est différent. Il est plus pédagogique. Il s'agissait dans un premier temps de les amener à exprimer ce qui est dans leur cœur. Et vous savez que c'est quelquefois une bonne chose qu'on puisse parler de son souci, de son chagrin, avouer leur désarroi, mais aussi ils devaient avouer leur incrédulité. Pour cela, Jésus utilise un moyen simple. Il pose une question, « De quoi parlez-vous ?» Comme s'il n'avait aucune idée de ce qui venait se passer à Jérusalem, dont il était lui-même donc l'acteur. Je me souviens de l'effervescence qu'il y a eu en France, dans toute la France, quand l'équipe de foot avait remporté la Coupe du Monde en 2018. Si quelqu'un s'était étonné de ce moment de l'agitation, on se serait demandé de quelle planète il débarque. Nous lisons ensuite que l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» Et c'est donc exactement la réaction des disciples. Ils ont l'air scandalisés de cette question. Et avant même de répondre, l'un d'eux pose une autre question, histoire de s'assurer qu'il a bien compris la première réponse. Et la réponse du visiteur est simplement, « Mais quoi ?» Ce simple mot va déclencher une réponse qui nous permet de comprendre dans quel état d'esprit se trouvaient ces deux hommes. Je dis deux hommes. Et c'est exactement ce que Jésus voulait. Il voulait les amener à formuler eux-mêmes leur vision des faits, la manière dont ils voient et apprécient la situation. Dans les versets 19 et 20, ils décrivent ce qu'était selon eux Jésus, leur maître, celui qui l'ont suivi probablement tous, pendant tout son séjour sur terre. Il disait, c'était un prophète puissant en œuvre et en parole, et il dit ce qui lui est arrivé, comment il a été livré par les chefs religieux, condamné à mort et crucifié. Au verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Donc, directement après la description succincte de ces événements, ils expriment leur déception. Nous espérions que. Qu'est-ce qu'ils espéraient en fait? Oh, comme la plupart des Juifs de l'époque, ils espéraient que le Messie allait revenir et en premier lieu et surtout les délivrer enfin de cet envahisseur romain qui occupait le pays depuis quelques années déjà. Le Messie viendra donc les délivrer, c'est ce qui leur a été annoncé dans les synagogues, c'est ce que prêchaient les chefs religieux de l'époque. Et ensuite, ils disent, oh, je peux trop vite, mais avec tout cela, à la fin du verset 21, appuie encore plus ce sentiment de frustration qui devait éprouver les disciples. Ça fait déjà 3 jours, donc il n'y a plus rien à espérer. Et là, je me suis aussi arrêté un petit instant et je me suis dit, mais combien de fois nous avons été dans un état d'esprit semblable que ses disciples, avec un certain nombre d'attentes, de réponses peut-être aussi à nos prières. Je suis en train de lire ce livre très instructif, Dieu en mode silencieux. C'est-à-dire quand Dieu ne répond pas au moment et de la manière que nous avons prié. Au verset 22, nous lisons, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il est vrai que, petite phrase presque assassine, l'air de dire « ok, on admet quand même que quelque chose s'est passé, mais bon ». Ils mettent en doute le témoignage qui leur est donné par les femmes. Ils sont tellement sûrs que tout est fini, qu'une nouvelle qui, à première vue, aurait dû leur redonner l'espoir, ne fait qu'augmenter leur doute et leur amertume. À tel point que, quand d'autres sont allés vérifier, et nous lisons que c'était entre autres Pierre, le disciple, et ont confirmé ce que les femmes avaient dit, ils doutent encore. C'est ce qui exprime cette dernière phrase du verset 24, « Mais lui, ils ne l'ont pas trouvé. » Il y a ensuite une troisième étape. La leçon du maître dans les versets 25. À 27. Verset 25, alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Donc, après avoir écouté ces deux hommes exprimer leur sujet de tristesse, il les met maintenant en face de leur incrédulité. Ô homme sans intelligence. C'est donc leur intelligence qu'il accuse premièrement, cette intelligence qui a ses limites, qui les rend incapables de discerner les promesses de Dieu, données par les prophètes au fil des Écritures. Bloqués par leur arrière-plan religieux, par les traditions, parce qu'ils ont toujours cru et ce qu'on leur a toujours dit, empêche de se remettre en question sur leur manière de comprendre les Écritures. Une mise en garde pour nous. Bien connaître les Écritures, c'est certainement souhaitable, et je suis parfois étonné et inquiet du manque de connaissances bibliques de nos contemporains, même des chrétiens. Donc bien connaître les Écritures, c'est bien, mais faut-il encore ne pas simplement retenir ce qui nous arrange ou ce qu'on nous a toujours dit. Il associe ce problème de l'intelligence à celui de la dureté de cœur, la lenteur à comprendre et à accepter. Par deux fois déjà, le Seigneur avait fait ce reproche dans l'Évangile de Marc, chapitre 6 et chapitre 8. Il leur reproche leur manque d'ouverture et de compréhension. Donc, il fait une triple démarche. Une triple démarche. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans sa gloire ? Verset 26. Jésus leur pose en fait de nouveau une question. C'est comme une sorte de bombe presque que le Seigneur leur lance. Comment imaginer que celui qui devait délivrer, Israël, puisse souffrir, appeler à souffrir, c'était absolument impensable. Le Seigneur les rend ainsi attentifs à ce qu'il va dire en bouleversant donc leur raisonnement. Une fois qu'il a toute leur attention, il va les instruire sur le vrai sens de tout ce qui a été dit à son sujet dans les Écritures. Verset 27, « Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Les Juifs avaient l'habitude de résumer toute la Bible, enfin tout l'Ancien Testament, par la loi et les prophètes. En fait, il y avait trois parties. Il y avait la loi, les prophètes et ce qu'on appelait les Ketubim, les écrits. Mais souvent, on résumait le tout par la loi, la Torah, la loi et les prophètes, les Nabim. Donc, il dit en quelque sorte, il leur explique dans toute la Bible ce qui le concernait. Tout en continuant leur chemin vers Emmaüs, Jésus leur donne une étude biblique privée de peut-être près de 2 heures. Et on aurait bien voulu assister à cette étude biblique. Il raconte donc ce que dit l'Écriture en ce qui le concerne. Et commençant par Moïse, donc il leur fait comprendre que les Écritures annonçaient ce qu'il venait de vivre. Encore une fois là, imaginez un instant un peu ce tableau. On est en train de marcher. Tout est en mouvement en fait. Et quelle ambiance sur ce chemin d'Emmaüs. Deux hommes qui vivent la grande désillusion de leur vie rentrent chez eux et se voient rejoints par un homme dont ils ignorent tout, mais qui est en train de les enseigner avec autorité. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête, dans leur cœur ? Au fil des explications, leur cœur et leurs esprits s'ouvrent. La lumière se fait jour petit à petit. Jésus continue cette démarche entreprise déjà au verset 13, et au lieu de leur dire abruptement qui il est, ils ne l'auraient pas supporté. Il leur permet, par ses explications, de comprendre qui il est réellement, et quelle est sa mission sur terre, et quelle est donc la nécessité de la résurrection. Et je pense que le Seigneur nous invite à faire de même, nous mettre à son écoute aussi souvent que possible, sonder les Écritures, pour découvrir qui il est vraiment. Ces derniers deux mois, j'ai eu un chauffeur tous les jours pour mon traitement du cancer, et j'ai souvent pris l'occasion de leur parler de l'Évangile. Et très souvent, quand ils me disaient qu'ils ne croyaient pas ou qu'ils ne connaissaient pas l'Écriture, je leur ai conseillé de lire un Évangile, mais avec la question « Qui est ce Jésus ?» Pour moi, qu'est-ce que ça signifie Jésus dont il est question dans cet évangile pour moi? Je leur ai dit, lisez l'évangile de Marc par exemple, ça peut se lire dans une heure et demie, et posez la question, qui est ce Jésus pour moi? Et je suis sûr que le Seigneur va vous donner une réponse. Il y a ensuite une quatrième étape. L'étape où il faut choisir. Une décision s'impose. Au verset 28, nous lisons « Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. » Donc, ils arrivent à destination, ce village d'Emmaüs. Le Seigneur, lui, fait mine de continuer sa route. Pourquoi ? Par cette démarche, le Seigneur leur donne le choix. Il n'impose pas sa présence. Ils en ont assez entendu. Ils peuvent choisir de le laisser continuer son chemin ou de l'inviter de venir avec eux. Cela me rappelle un verset, et nous allons le voir tout à l'heure de plus près, dans Apocalypse 3, au verset 20, Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est ce que nous lisons au verset 29. Les disciples ont fait leur choix. « Reste avec nous. » Ils l'invitent à venir passer la soirée chez eux. Le motif qu'ils invoquent, c'est le soir approche, le jour est sur son déclin. Il faut comprendre que dans la tradition orientale, on ne laissait pas un visiteur ou un étranger sur la place publique. On l'invitait, c'était une sorte d'obligation morale de l'hospitalité d'inviter quelqu'un qui est seul, qui attend souvent sur la place du village, pour passer le soir et la nuit avec l'un des habitants. Mais on se demande si c'était le vrai motif, parce qu'ils disent « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Donc, en quelque sorte, ils ont ressenti très fort « Nous ne pouvons pas en rester là ». En quelque sorte, Il nous est réveillé tellement le désir, quelque chose s'est passé en nous que nous ne pouvons pas simplement nous arrêter là. Et c'est là que nous voyons la cinquième étape au verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. On ne peut pas affirmer que ce qui s'est passé là, ce soir, était une célébration de la scène. Mais par contre, tous les éléments étaient réunis pour nous rappeler aux deux, vous rappeler aux deux disciples ce moment solennel vécu quelques jours plus tôt en présence de tous les apôtres et le Seigneur. Et ce rappel a été suffisamment fort et bouleversant pour que leurs yeux s'ouvrent sur la réalité qui se présente à eux. Ils sont assis à une table, s'apprêtant à partager le repas avec leur Seigneur. On ose à peine imaginer l'émotion qu'ils ont dû ressentir à ce moment-là. Mais immédiatement, le Seigneur disparaît, ce qui peut nous indiquer deux choses. D'une manière, le Seigneur ressuscité n'était plus lié aux lois physiques de sa présence, mais la vraie raison est aussi, et peut-être surtout, il avait atteint son but. Les deux disciples ont fini avec leurs doutes et leurs craintes. Il les avait suffisamment éclairés sur la nécessité biblique de ce qui est arrivé pour comprendre qu'il s'agit de leur Seigneur ressuscité et pour aller porter cette nouvelle aux autres. C'est ce qu'ils vont faire. Donc, au verset 32, nous lisons « Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Pendant que les deux hommes donc, se remémorent tout cela, ils disent « Nos cœurs ne brûlait-il pas au-dedans de nous ?» Et là, je reviens donc à la fin. J'ai fait un petit parallèle entre le passage de l'Apocalypse que je viens de vous lire. En prenant du recul, ils comprennent pourquoi ils ont écouté cet homme le long du chemin. Ils écoutaient parce que leur cœur était touché par la vérité et la puissance des paroles qu'il prononçait. Et nous, pour conclure, je voudrais juste vous inviter de refaire très rapidement, encore une fois, ce parcours des deux disciples que le Seigneur avait rejoints. Et de nous poser la question, mais dans quel état nous nous trouvons, peut-être ce matin même, ici présent, à quelle étape je me situe sur ce chemin d'Emmaüs. Il se peut que je sois au début. Je suis ce matin en chemin, encore dans le doute, coincé par mon intelligence ou par mon expérience ou par des situations douloureuses peut-être, des déceptions qui me disent en quelque sorte, mais il n'est pas raisonnable de croire que Jésus est vivant. Il y a des gens qui disent quelquefois, si Dieu existait, alors il devrait faire ceci ou cela, ou ne pas permettre ceci ou cela. Et quelquefois, il y a des gens qui vont lever un poing contre le ciel en quelque sorte pour dire, si tu existes, alors voilà. C'est ce que Jan Newbery appelle la prière terroriste. Si tu existes, voilà ce que tu dois faire. Peut-être que nous sommes déjà un petit peu plus loin sur le chemin d'Emmaüs en essayant d'argumenter sur nos attentes, sur ce que moi j'attends, ou que j'ai toujours attendu, que j'ai voulu, ou que je n'ai pas reçu. Ou alors peut-être que nous avons déjà franchi une étape de plus et nous nous taisons. Nous avançons et nous sommes à l'écoute de ce que le Seigneur à nous apprendre. Ou alors, nous sommes déjà arrivés à reconnaître le bon plan de Dieu dans notre vie, et nous pouvons en quelque sorte dire que notre cœur chante pour le Seigneur ressuscité. Et je peux vous dire que si je vous dis ces choses, je parle aussi de mon cœur. Et c'est la souffrance physique, spirituelle, morale. Et la réponse ce matin, formulez-la vous-même. Seigneur, reste avec nous. Est-ce que le Seigneur utilise sa parole pour se révéler ? Il me reprochera peut-être ma dureté de cœur, mais il désire se révéler. Se révéler comme le ressuscité. Et là, encore une fois, nous voulons lui dire, Seigneur, reste avec nous. Nous voulons prier. Je veux te remercier, Seigneur, de ce que tu t'es révélé à ses disciples comme le ressuscité, que tu les as rencontrés là où ils étaient, avec leurs doutes, leurs difficultés, leur refus de reconnaître, malgré le témoignage même entendu. Cela nous ressemble. Et nous voulons, Seigneur, venir simplement à toi, Seigneur, ce matin et te dire, reste avec nous. Nous avons encore besoin de mieux comprendre, de te découvrir tout à nouveau pour pouvoir t'adorer en tant que Christ vivant, ressuscité, assis à la droite de Dieu, intercédant pour nous. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que ton esprit seul est capable d'opérer cela. Mais je veux le demander pour chacun de nous ce matin, au nom même de ce Seigneur Jésus. Amen.